Le dévoilement de Dieu numéro 69. La souveraineté de Dieu dans la réprobation ailleurs partie. Le 9 décembre 2018. Brian Kozurek. Pasteur. Alors que nous examinions le sermon de frère Branham Dieu dévoilé prêché, le 14 juin 1964. Nous sommes tombés sur les paragraphes 192 à 203 de son sermon. Remarquez aux pages 192 il dit, mais encore aujourd'hui, il n'y voit pas cela. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré sa tradition, et il a exposé la parole pour cet âge au regard de tous, et ils n'y savent toujours pas ce qu'il en estère. Ils n'y savent vraiment pas ce qu'il en estère. C'estère tellement simple. Voyez-vous? C'est-à-dire tellement simple. Vraiment. C'est-à-dire tellement étranger aux choses du monde. 193 L'autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, sur être un cinglé. Un de ces jours, je voudrais parler de ça, d'être un cinglé. On estère tous cinglés à cause de quelqu'un. Alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu'on le considérait comme un fou. C'est-à-dire sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un écrou, frère Branham utilise le mot anglais nu qui signifie écrou, mais aussi, au figuré, cinglé, tiré d'été, pour maintenir les choses en place. Voyez, c'est-à-dire exact. 194 alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non. Donc, les gens qui aimaient le péché n'y pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux attachés à leur tradition n'y pouvaient pas voir ce qu'il en était, parce qu'il était un homme. Pourquoi? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 195 or, s'il avait été une grande colonne de feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande colonne de feu était descendue et leur avait montré ce qu'il était cette grande colonne de feu, ça, il l'aurait peut-être cru, si Jéhovah avait circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu'il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens intelligents, sages, il s'estère simplement révélé tel qu'il l'avait promis à Moïse. Voyez-vous, je leur parlerai par un prophète. Et il était, fils de l'homme, un prophète. Et certains l'ont reconnu, environ 0,1% du monde l'ont cru, les autres, non. Mais c'est-à-dire ce qu'il était quand même. Cela nous a donc conduit à examiner la souveraineté de Dieu dans la révélation, puis la souveraineté de Dieu dans le salut. Et puisque nous comprenons comment la souveraineté de Dieu dans le salut fonctionne, alors nous avons examiné quelle devrait être notre attitude envers la souveraineté de Dieu. Maintenant, ce matin, nous allons examiner un sujet plus délicat mais qui doit être compris pour que nous ayons une pleine compréhension de la souveraineté de Dieu. Par conséquent, nous allons commencer une étude en trois parties de la souveraineté de Dieu dans la réprobation afin de mieux comprendre comment Dieu est souverain en toutes choses. Par conséquent, afin de commencer notre étude de la souveraineté de Dieu dans la réprobation, ouvrons nos Bibles dans Romains 11.22. Romains 11.22 considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Remarquez que Paul nous fait savoir que Dieu est bon pour ceux qui continuent dans sa bonté, mais il est également sévère envers ceux qui tombent de sa grâce. Nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2.3 un avertissement de l'apôtre Paul, que personne n'ait vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. S'il y en a certains que Dieu a élus pour le salut, il doit y en avoir d'autres qui n'est mis sont pas élus pour le salut. S'il y en a certains que le Père a donné à Christ comme nous le voyons dans Jean 6.37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je n'ai mis mettrai pas dehors celui qui vient à moi, impérativement, il doit aussi y avoir d'autres qu'il n'a pas donné à Christ. S'il y en a certains dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, il doit impérativement y avoir d'autres dont les noms n'y sont pas écrits. C'est le cas que nous prouverons pleinement dans Apocalypse 21.27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tous n'y reconnaîtront pas que, depuis la fondation du monde, Dieu a connu d'avance et vu d'avance qui accepterait et qui n'accepterait pas Christ comme leur sauveur. Pourtant, nous pouvons voir par la Bible qu'il en est ainsi, et donc en permettant à ces êtres, qui n'y connaîtront jamais Christ et qui rejetteront Christ, de venir à l'existence, nous pouvons voir que Dieu les a créés pour la damnation. Romains 9.15 Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est ainsi donc, cela n'y dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, « Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est ce qui résiste à sa volonté ? » 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que dire ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? Maintenant, l'apôtre Paul est très spécifique en ce qui concerne le salut et la réprobation. Dieu est totalement souverain dans son choix à la fois de qui sauver et de qui condamner. Bien que Dieu connaisse d'avance ce qu'il a appelé, justifié, sanctifié et glorifié. Cependant, il connaît aussi d'avance ceux qui rejetteront Christ. Pourtant, Dieu n'a émis les pousse pas à le rejeter, comme il pousse ceux qui étaient dans ses pensées à être des fils, être semblables à l'image de son fils premier-né. Maintenant, écoutez attentivement pendant que je lis très lentement ce que l'apôtre Paul a dit concernant les fils de Dieu. Dans Galates 4.6 nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. » Maintenant, pensez-y. Parce que vous êtes fils, il envoie l'esprit de son fils premier-né dans vos cœurs. Le Saint-Esprit pour vous rendre semblable à l'image du Fils premier-né parce que ce Fils premier-né a déjà été accepté, et Dieu veut vous accepter de la même façon. Mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas un Fils de Dieu? Puis, nous découvrirons que Dieu n'est mis s'implique pas de façon active dans la vie de ceux qui n'est mis sont pas des fils. Et c'est ce que nous verrons pendant que nous étudions la souveraineté de Dieu dans la réprobation. Mais alors que nous voyons qu'afin d'être semblable à l'image du Fils premier-né, ce qui est Romains 1.29, nous connaissons aussi que cela n'est mis peut être rendu possible que par Dieu lui-même produisant en nous à la fois le vouloir et le faire comme Paul l'a déclaré dans Philippiens 2.13. Alors vous pourriez vous demander, pourquoi y a-t-il une différence? Pourquoi Dieu œuvre dans certains pendant qu'il n'œuvre pas dans d'autres? Nous trouvons notre réponse dans le livre des psaumes. Psaume 1.1 Heureux ou béni soit l'homme qui n'est mis marche pas selon le conseil des méchants, qui Néhémie s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui Néhémie s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Et l'Esther comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage Néhémie se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. 4. Il n'en Esther pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5. Esther pourquoi les méchants Néhémie résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. 6. Car l'Éternel connaît, Yada, la voix des justes, et la voix des pécheurs mène à la ruine. Obad. Remarquez dans les psaumes. David dit très clairement que Dieu connaît ou veille sur la voie des justes. Le mot voie a été traduit d'un mot hébreu, derek, qui signifie le chemin de la vie. Ainsi, le Seigneur connaît la voie, ce qui a été traduit d'un mot hébreu, yada, qui signifie que le Seigneur veille en prenant une part active à la vie de certains qu'il appelle les justes. Mais remarquez qu'il n'affirme pas la même chose avec l'autre groupe mentionné dans ce psaume. Avec eux, il Esther dit que la voie des pécheurs mène à la ruine, et ce mot ruine a été traduit d'un mot hébreu naga, qui signifie qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et le mot pour pécheur a été traduit de l'hébreu mot racha, qui signifie les condamnés. Par conséquent, nous examinons ici deux groupes de personnes. Ceux qu'il appelle les justes, que Dieu a connus d'avance avant les fondations du monde et appelés et ordonnés à l'adoption de fils, et les autres qui, dès le commencement, sont venus dans le monde comme les condamnés. Ceux-ci n'ont jamais eu la chance pour commencer, mais sont laissés à eux-mêmes pour échouer misérablement et ainsi œuvrer à leur propre condamnation. Maintenant, vous pourriez avoir du mal à qui à croire en un Dieu saint et juste qui ferait une telle chose, mais la Bible l'enseigne très certainement. Allons dans l'Épître aux Romains chapitre 9 et commençons à lire au verset 11, car quoique les enfants Néhémie fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal à qui, tiré afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Moins 12, il fut dit à Rebecca, la jeune sera assujettie au plus jeune, selon qu'il Esther écrit, 13 j'ai aimé Jacob et j'ai Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. 15 Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui Esther ce qui résiste à sa volonté? 20 Ô homme, toi plutôt, qu'es as-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? 22 Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. 23 Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. 24 Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les pagènes. 25 Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Maintenant, cette venue dans le monde pour subir la condamnation Néhémie signifie pas que Dieu leur fait faire les mauvaises choses qu'ils font. Il Néhémie s'implique simplement pas dans leur vie d'une participation active, comme il le fait avec ceux qu'il appelle ses propres enfants. Nous lisons dans Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait mis périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, le fondamentaliste pense que ça se terre pour tous ceux qui veulent venir à Dieu. Mais ce verset Néhémie dit pas que ça se terre pour tout le monde. Il n'arrive pas à continuer à lire après s'être arrêté à ces deux phrases. Mais une lecture plus attentive de ce verset révèle encore les deux groupes, ceux qui sont sauvés et ceux qui Néhémie sont pas sauvés. Ceux qui sont rendus justes et ceux qui sont laissés à eux-mêmes pour rester condamnés. Ainsi, continuons notre lecture. 18 Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui Néhémie croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré ou ont aimé dans une plus grande mesure, les ténèbres à la lumière. Et pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal acquiert les lumières, et Néhémie vient point à la lumière, de peur que ses œuvres Néhémie soient dévoilées. 21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Maintenant, encore une fois, il est dit qu'ils haïssent la lumière et Néhémie viendront pas à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, et cela est au passé. Alors, ils font de mauvaises œuvres. Leurs fruits sont mauvais. Et cela signifie qu'ils sont des enfants d'une source différente de ceux qui viennent à la lumière, dont les œuvres manifestent qu'elles sont faites en Dieu ou ont leur source en Dieu. Maintenant ce mot « fait » a été traduit du mot grec « ergazomé ». Il y a en fait trois mots qui composent ce mot. Le mot « erga » vient de la racine grecque « ergon », qui signifie « travailler » ou « œuvrer ». La partie suivante qui est « erzo » est l'abréviation du mot grec « zoé » qui parle de la vie. Et enfin la dernière partie est « ermé », qui est le suffixe « mé » qui signifie « imputer » ou « compter » ou « considérer ». Ainsi, nous voyons que d'avoir nos œuvres faites en Dieu signifie que les œuvres faites dans notre zoé ou dans notre vie sont attribuées à Dieu d'où notre vie provient. C'est exactement Genèse 1.11 où on nous dit chaque semence produira selon leur espèce hors source. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7.20 c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et comme on nous dit dans Romains 3.10 selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un. Seul. 11 Nul n'est intelligent. Nul Néhémie cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. 12 Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et pourtant nous voyons d'après notre texte de ce matin que Dieu est sévère envers ceux qui Néhémie font pas le bien. Et pourtant on lit aussi qu'il bénit ceux qui font le bien. Romains 11.22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Donc cela Néhémie dépend pas du fait que nous faisons le bien mais du fait que nous demeurons fermes, dans sa bonté. L'apôtre Paul réconcilie Romains 3.10 Il n'y a point de juste. En nous donnant Romains 4 points, que dirons-nous donc Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. 5 Et à celui qui Néhémie fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, c'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. 8 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce mot imputé esther traduit du mot grec. Logizomé qui vient de la racine du mot logo et combiné, avec le mot zoé, signifiant la vie. Et mais qui signifie imputé, ou compté, ou considéré comme, nous le voyons au verset 3 car que dit l'écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. De nouveau, au verset 4, Paul utilise le même mot que pour imputer ou compter, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Autrement dit, tenir compte de, ou mettre à son compte. Par conséquent, ce mot logizomé parle du fait de marquer des points. Et dans ce cas, nous parlons d'une feuille de pointage, votre feuille de pointage dans le grand livre de Dieu. Et votre le livre Néhémie montre aucune dette impayée ou due, mais tout Esther comptabilisé le prix a été payé. Donc, nous voyons qu'il y a ceux qui, selon l'épître de Jude, sont destinés à cette condamnation. Jude, 1.4 car il s'Esther glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation Esther écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu leur a fait faire le mal à qui qu'ils font, cela signifie simplement que Dieu n'a pas fait d'eux une partie de lui-même et Néhémie participe donc pas activement à leur ergazomé, comme nous l'avons vu dans Jean 3.21 parlant de ceux qui sont nés de Dieu. 21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Par conséquent, Dieu Néhémie décrète pas qu'ils doivent faire le mal à qui, mais il sait qu'il n'y a rien en eux pour les en empêcher. Maintenant, rappelez-vous, puisque Dieu est souverain dans le salut, il est aussi souverain dans la réprobation. Dieu avait une raison précise pour laquelle il a créé les hommes, un dessein spécifique pour lequel il a créé cet individu-ci et cet individu-là, et compte tenu de la destination éternelle de ces créatures, il se proposa soit que celui-ci passe l'éternité au ciel soit que celui-là passe l'éternité dans le lac de feu. Si donc Dieu prévoyait qu'en créant une certaine personne, la personne mépriserait et rejetterait le Sauveur, tout en sachant cela à l'avance, et que Dieu a néanmoins amené cette personne à l'existence, alors il est clair que Dieu a conçu et ordonné que cette personne soit éternellement perdue comme nous le lisons dans le livre de Jude, dont la condamnation Esther écrite depuis longtemps. Alors il est très évident que si ceci était depuis longtemps, autrement dit, avant les fondations du monde ordonné à la condamnation, alors nous pouvons dire assurément que Dieu est souverain dans la réprobation. C'est Esther pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 9.22 et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Maintenant, s'ils étaient formés pour la perdition ou la destruction, alors ils étaient assurément formés pour cela. Autrement dit, si vous êtes né pour avoir de grands pieds et que vous faites du 45, peu importe combien vous essayez de faire entrer vos pieds dans une chaussure de taille 40. Vous n'y arriverez jamais, car vos pieds sont formés pour porter du 45. Nos pieds Néhémie sont pas formés pour porter du 40. Et donc le mot grec formé que Paul a choisi d'utiliser ici signifie être associé à ou préparé à. Donc, quand nous voyons que ces vases sont formés pour la perdition ou la destruction, cela signifie qu'ils ont été ordonnés à ça. Encore une fois, nous voyons la souveraineté de Dieu dans la réprobation. Maintenant, la foi Esther le don de Dieu, et le dessein de Dieu, de faire don de sa foi révélation uniquement à certains, et pas à d'autres, implique le dessein de Néhémie pas la donner à d'autres. Parce que sans la foi il n'y a pas de salut celui que Néhémie croit pas Esther déjà jugé, Donc s'il y avait certains descendants d'Adam auxquels il se proposait de n'aimer pas donner la foi, c'est Esther qui en Esther ainsi, parce qu'il a ordonné qu'il soit jugé. Remarquez que Jésus évoque précisément cette question dans Matthieu 13.10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu pas à nous mais à eux, ceux du dehors, en parabole? 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'aimé il n'aura pas été donné. Et nous voyons également cela dans Marc 4.10 lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. 11. Il leur dit, c'est Esther à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. 12. Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et n'aimient comprennent point, de peur qu'ils n'aimient se convertissent, et que les péchés n'aimés leur soient pardonnés. Nous voyons donc qu'il y a un aveuglement spécial de ceux qui n'aimient sont pas ordonnés à recevoir la révélation de Jésus-Christ. Il se révèle à qui il se révèle et il aveugle qui il veut. Non seulement il n'y a pas d'échappatoire à cette conclusion, mais même l'histoire la confirme. Acte 14.16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Mais pendant de nombreux siècles, Israël était la seule nation à laquelle Dieu donnait des révélations spéciales de lui-même. Amos 3.2. Je vous ai choisi, Israël, vous seul parmi toutes les familles de la terre. Par conséquent, comme toutes les autres nations ont été privées de la prédication de la parole de Dieu, car elles étaient étrangères à la foi qui vient de la prédication de la parole, comme nous le voyons dans Romains 10.17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ces nations n'étaient pas seulement ignorantes de Dieu lui-même, mais aussi de la façon de lui plaire ou de lui être agréable, de la véritable façon d'être accepté de lui, et les moyens de pouvoir se réjouir éternellement de lui. Or, si Dieu avait voulu leur salut, Néhémie leur aurait-il pas accordé les moyens du salut? Néhémie leur aurait-il pas donné toutes les choses nécessaires pour atteindre cet objectif? Mais c'est indéniablement un acte qu'il n'a pas posé. Si Dieu, en accord avec sa justice, sa miséricorde et sa bienveillance, a refusé à certains les moyens de la grâce, et les a enfermés dans l'obscurité profonde et l'incrédulité, pourquoi cela devrait-il être considéré incompatible avec sa perfection d'exclure certaines personnes, ou plusieurs, de la grâce elle-même, et de cette vie éternelle qui lui est alliée? Nous l'avons vu dans Matthieu 13 et Marc 4. Recevoir la révélation, c'est à recevoir la guérison et la conversion, mais d'être aveuglé à cela signifie en être exclu. Puis étant donné que Dieu est à la fois le Seigneur et le Souverain, qui dispose de la destinée de tous les hommes, alors n'a-t-il pas la souveraineté sur le destin de tout du début à la fin? Nous lisons dans Proverbe 16.4 à propos de la souveraineté de Dieu dans la réprobation, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Remarquez, il est dit que l'Éternel a tout fait. Peut-être, chaque lecteur de ce verset peut admettre, dans sa pensée, que Dieu est tout fait, mais qu'il est tout fait pour lui-même n'est pas largement cru. Dieu nous a créés, pas pour nous-mêmes, mais pour son bon plaisir. Pas pour notre bonheur, mais pour sa gloire. Cela est affirmé dans la Bible, comme nous le voyons dans l'Apocalypse 4.11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mais Proverbe 16.4 va encore plus loin, parce qu'il est aussi dit que l'Éternel a fait le méchant pour le jour du malheur. Et c'était son dessein de leur donner l'existence. Mais pourquoi? Paul nous dit pourquoi dans Romains 9.17, car l'Écriture dit à Pharaon, Je t'ai suscité des saints, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu a fait les méchants pour qu'à la fin, il puisse démontrer sa puissance. Il peut démontrer cela en montrant à quel point il est facile pour lui de maîtriser même l'ennemi le plus rebelle et le plus puissant. Nous lisons dans Matthieu 7.23 « Alors je leur dirai ouvertement, je n'ai aimé, vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et le mot « jamais » veut dire « jamais ». À aucun moment, il n'est aimé, les a connus. Il n'est aimé, les a jamais ginosco, ce qui estère une connaissance d'eux par une expérience. Les termes connaître et pression sous connaissance d'avance, lorsqu'ils sont appliqués à Dieu dans la Bible, font non seulement allusion à ses connaissances préalables de ses élus, mais aussi à ses connaissances préalables de ceux qui n'aimés sont pas élus. Quand Dieu a dit à Israël dans Amos 3.2, « Je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre », il est évident qu'il disait, « Vous êtes les seuls envers qui j'ai fait faveur ». Quand nous lisons dans Romains 11.2 « Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance ». Il est évident que ce que cela voulait dire, ce que nous lisons dans Deutéronome 7.7-8, « Cette ce n'estère point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'estère attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » 8. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Cependant, nous lisons dans Matthieu 7.23 là où Jésus parle de ceux qui n'aimés sont pas élus, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je n'ai aimé, vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire pourquoi au jour du jugement, quand le Seigneur dira à beaucoup, je n'ai aimé, vous ai jamais connu. Il est à noter que c'est-à-dire plus que de simplement dire je n'ai aimé, vous connais pas. Parce qu'il dit je n'ai aimé, vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été l'objet de ma connaissance par une expérience. Comparez cela avec Jean 10.14 « Je connais mes brebis ». Ce mot « connaître », c'est « ginosko », et il signifie « connaître par expérience » et « elles me connaissent »,« ginosko » aussi. Encore une fois, nous voyons que mot « ginosko » qui signifie « connaître par expérience ». Ainsi, il connaît par expérience ses brebis et ses brebis le connaissent par expérience. Les brebis, ce sont ses élus, les quelques ou les rares personnes, qu'il connaît effectivement par expérience, mais les réprouvés, ceux qui n'aient mis sont pas élus, les nombreux dont il dit qu'il n'aient mis connaît pas, et en revenant à Psaume 1.6 il n'a donc pas de participation active à leur vie. Il n'a qu'une participation active à la vie des élus, ceux qui n'aient mis sont pas élus sont livrés à eux-mêmes. Il n'est mis les a même pas connus avant la fondation du monde. En fait, on nous dit qu'il n'est mis les a jamais connus. Comme je l'ai mentionné lors de notre dernier service, Romains 9 Esther de loin le meilleur verset pour soutenir la doctrine de la souveraineté de Dieu dans son application à la fois aux élus et à ceux qui n'est mis sont pas élus dont la Bible parle en détail. Romains 9.17 car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité des saints, ainsi nous voyons que Pharaon était suscité dans un but, pour montrer en toi ma puissance, pas la puissance salvatrice de Dieu, mais sa puissance dans la réprobation parce qu'il dit ensuite, sourire. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ces paroles font allusion à ce que nous avons lu dans Romains 9.13-14. Dans Romains 9.13. Dieu exprime son amour pour Jacob mais aussi sa haine pour Esaü. Dans Romains 9.14 il est demandé, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et ici dans Romains 9.17 l'apôtre Paul continue sa réponse à l'objection qui a été faite concernant la souveraineté de Dieu dans la réprobation. Maintenant, Calvin a commenté ce verset en disant, « Il y a ici deux choses à considérer. La prédestination de Pharaon à la ruine, qui doit faire allusion au conseil passé et cependant caché de Dieu. Et ensuite, le but de cela, qui était de publier le nom de Dieu. » Autant d'interprètes s'efforcent de modifier ce passage et de le pervertir. Il nous faut d'abord remarquer que pour l'expression « je t'ai suscité », en hébreu, Sester « je t'ai désigné », par lequel il apparaît que Dieu, voulant montrer que la rébellion obstinée de Pharaon Néhémie l'empêcherait pas de délivrer son peuple, affirme non seulement que sa fureur avait été prévue par lui, et qu'il avait préparé les moyens pour le retenir, mais qu'il l'avait aussi délibérément ordonné ainsi à cette fin, afin qu'il puisse montrer une preuve plus illustre de sa puissance. Il sera observé que Calvin donne, comme force du mot hébreu, que Paul rend par « je t'ai suscité à dessein ». Calvin dit, « je t'ai désigné à dessein ». Exode 9.16 « Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre ». Et ainsi nous voyons que l'apôtre Paul a utilisé ce même argument concernant la souveraineté de Dieu dans la réprobation. Mais il nous faut maintenant considérer plus en détail le cas de Pharaon qui résume, en un seul exemple, la grande controverse entre l'homme et son Créateur. Exode 9.15-16. Si j'avais étendu ma main, et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. 16. Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. Nif 9.15 Car maintenant j'aurais pu étendre ma main et te frapper toi et ton peuple d'un fléau qui vous aurait effacé de la terre. 16. Mais je t'ai suscité dans ce but précis, afin que je puisse te montrer ma puissance et que mon nom soit proclamé sur toute la terre. 17. Tu te poses néanmoins à mon peuple, et tu Néhémie les laisseras pas s'en aller. 18. Par conséquent, à cette heure-ci, demain, j'enverrai la pire tempête de grêle, qui Néhémie soit tombée sur l'Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à maintenant. 19. Donnez maintenant l'ordre de conduire votre bétail et tout ce que vous avez dans le champ vers un abri, car la grêle tombera sur chaque personne et chaque animal qui n'a pas été conduit à l'abri et qui estère encore sur le champ. Et ils mourront. Alors, Dieu a utilisé la renommée de la punition de Pharaon pour publier au monde connu son nom. Par conséquent, à propos des paroles de Moïse, j'aimerais ici faire un commentaire. Premièrement, nous savons d'après Exode 14.15.27 que Pharaon a été retranché, qu'il a été retranché par Dieu, qu'il a été retranché dans sa méchanceté, qu'il n'a été retranché ni par la maladie, ni par les infirmités qui sont liées à la vieillesse, ni par ce que les hommes appellent un accident, mais il a été retranché par la main immédiate de Dieu en jugement. Donc, pour être sûr que la Bible nous dit que Dieu a suscité Pharaon dans ce dessein même de le retrancher, ce qui, dans la langue du Nouveau Testament, signifie détruire. Nous voyons donc que Dieu Néhémie fait jamais rien sans une déclaration préalable. En donnant à Pharaon de naître et d'être, en le protégeant pendant sa petite enfance et son enfance, en l'élevant sur le trône d'Égypte, Dieu avait une fin en vue. Que tel était le dessein de Dieu Esther clair d'après les paroles qu'il a adressées à Moïse avant même que Moïse Néhémie descende en Égypte pour demander à Pharaon de laisser le peuple de Jéhovah s'en aller adorer Jéhovah pendant un voyage de 3 jours, comme nous le voyons dans Exode 4. Exode 4.21 L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il n'y laissera point aller le peuple. Deuxièmement, je veux que vous remarquiez que l'intention et le dessein de Dieu ont été déclarés bien avant qu'elles aient lieu. 400 ans auparavant, Dieu avait dit à Abraham, comme nous le lisons dans Genèse 15.13-14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, qui n'est mis sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. 14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. » Donc 400 ans avant même que les événements aient eu lieu, Dieu a dit à Abraham ce qui allait se passer. D'après ces paroles, il est terrible qu'une nation et son roi sont considérés comme un dans la parole de Dieu et que le dessein de Dieu a été formé bien avant qu'il fasse entrer en scène Pharaon. Alors gardez cela à l'esprit, en considérant toutes les nations et leurs dirigeants. Troisièmement, un examen des relations entre Dieu et Pharaon montre très clairement que le roi d'Égypte était en effet un vase de colère formé pour la destruction. Placé sur le trône d'Égypte, avec les rênes du gouvernement dans ses mains, il siégeait à la tête de la nation qui était au premier rang des peuples du monde. Il n'y avait aucun monarque sur terre capable de contrôler ou même de diriger Pharaon. Un tel niveau d'élévation, auquel Dieu a exalté, serait prouvé, et un tel parcours furent nécessaires pour le préparer à son destin final, car c'est un axiome divin que l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Et si Pharaon n'avait pas été dans sa position, il se peut que son tempérament n'aurait pas été vantard et rempli d'orgueil dans son cœur contre Moïse. Alors vous voyez comment Dieu l'a suscité dans le but de le détruire, afin de publier son nom parmi les nations, montrant que Pharaon a finalement dû reconnaître que le Dieu de Moïse est Dieu. Dieu a fait la même chose avec Nabuchodonosor. Je l'ai suscité à devenir le plus grand roi sur terre seulement pour l'humilier, pour lui montrer qu'il n'y a de Dieu que Jéhovah Elohim. En plus de cela, Dieu a enlevé de Pharaon la seule contrainte extérieure qui était conçue pour agir comme un contrôle sur lui. L'octroi à Pharaon de pouvoir illimité d'un roi le plaçait au-dessus de toute influence et de tout contrôle légaux. Mais en plus de cela, Dieu a enlevé Moïse de sa présence et de son royaume, car si Moïse, qui non seulement était habile dans toute la sagesse des Égyptiens, mais qui avait aussi été élevé dans la maison de Pharaon, avait enduré de rester à proximité du trône, il n'est mis petit à avoir de doute que son exemple et son influence auraient exercé un puissant contrôle sur la méchanceté et la tyrannie du roi. Cela, bien que ce n'ait mis soit pas la seule cause, était clairement une des raisons pour laquelle Dieu a envoyé Moïse au pays de Madian, car c'est durant son absence que le règne humain d'Égypte a formulé ses exigences les plus cruelles aux esclaves hébreux. Dieu, par la suppression de cette contrainte, a donné à Pharaon la pleine opportunité de remplir la pleine mesure de ses péchés, et de mûrir pour sa ruine pleinement méritée mais prédestinée. Quatrièmement, Dieu endurcit son cœur, comme il le déclara dans Exode 4.21. C'est en plein accord avec les déclarations de la Bible, comme nous le voyons dans Proverbe 16.1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et Proverbe 21.1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il, Dieu, veut. Comme tous les autres rois, le cœur de Pharaon était dans la main de l'Éternel, et Dieu avait à la fois le droit et le pouvoir de l'incliner de la manière qui lui plaisait. Et ça lui a plu de l'incliner contre tout ce qui est bon. Dieu a décidé d'empêcher Pharaon d'accéder à sa demande par Moïse de laisser partir Israël, jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement préparé à son renversement final, et comme rien de moins que cela lui conviendrait parfaitement, Dieu a endurci son cœur. Finalement, il vaut la peine de réfléchir attentivement à la manière dont la confirmation de Dieu, dans ses relations avec Pharaon, avait été pleinement attestée. Plus remarquable encore que cela puisse être, nous avons le propre témoignage de Pharaon en faveur de Dieu et contre lui-même. Dans Exode 9.15-16, nous apprenons comment Dieu avait dit à Pharaon dans quel but il l'avait suscité, comme nous le voyons à Exode 9.27, où Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est Esther l'Éternel qui est Esther le juste. Et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Remarquez que cela a été dit par Pharaon après avoir su que Dieu l'avait suscité dans le but de le retrancher. Après que ses jugements sévères lui aient été adressés. Après qu'il eut endurci son cœur. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons examiner comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et vous montrer tout au long des Écritures comment Dieu endurcit le cœur de ceux qui sont ordonnés à condamnation. Nous allons donc vous montrer lors de ce prochain sermon le processus d'endurcissement que Dieu utilise pour apporter ses jugements. Inclinons la tête dans la prière. C'est Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.